Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 1 et au verset 35. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Et voyant Jésus qui marchait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». C'est là la deuxième fois qu'il dit ces paroles « Voici l'agneau de Dieu ». Au verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et au verset 37, « Et les deux disciples, l'ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus ». Deux des disciples de Jean-Baptiste. Et notre premier point ce soir sera la question que Christ leur pose quand ils s'approchent de lui. Au verset 38, Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ? Que cherchez-vous ? » C'est une question extraordinaire. Ces deux disciples de Jean, l'un c'est André, l'autre c'est sans aucun doute Jean, l'apôtre Jean. Il ne se nomme jamais quand il parle de lui, mais il est témoin de cette scène. Donc nous pensons que l'autre disciple c'était Jean lui-même. André et Jean. Jean-Baptiste était le prédécesseur de Christ. C'est ainsi qu'il s'annonce également. Il est sorti du désert et il a commencé à prêcher, à parler du Messie. Et la prophétie de l'Ancien Testament prophétisait qu'il y aurait un prédécesseur. Jean a parlé sans compromis. Il avertissait la nation partout où il prêchait, en plein air. Des grandes foules venaient se rassembler et il les avertissait de leur besoin de se repentir de leurs péchés et que le Messie allait venir et qu'ils devaient se repentir et tourner le regard vers le Messie. Il était le prédécesseur, celui qui annonçait Christ. Il avait un certain nombre de disciples proches et Jean et André en faisaient partie. Et Jean a été interrogé par le conseil du Sanhédrin juif. Et au deuxième et au troisième jour, il semble diriger ses disciples vers Christ. C'est là ce qu'il fait avec André et Jean. « Voici l'agneau de Dieu !» Dans un certain sens, il leur dit « Suivez-le !» Et c'est là ce qu'ils font. Ils suivent Christ, qui commence son ministère terrestre. C'était probablement quelque chose de surprenant pour eux que cet homme, à ce moment-là, Christ, le Seigneur, qui n'avait pas encore commencé à prêcher, une prédication qui avait tant d'autorité, tant de bonté, comme personne n'avait entendu auparavant, avec un tel amour pour la foule, et lui aussi prêchait, comme Jean, la repentance et la rémission des péchés, mais avec tant d'illustrations, de paraboles. Et il parlait de tant d'autres choses, de grandes foules se rassemblaient, mais ceci ne s'était pas encore passé à ce moment-là. Et ces miracles n'avaient pas encore réellement commencé. Des milliers de personnes allaient être guéries de toutes sortes de maladies. En une parole, d'une région à l'autre, des gens ramenaient leurs proches qui étaient malades, qui étaient paralysés, handicapés, toutes sortes de problèmes, les aveugles, et ils les guérissaient. Mais ceci ne s'était pas encore passé à ce moment-là. À ce moment-là, avant que Christ ne se manifeste, ne manifeste sa puissance. Cependant, Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pour les Juifs, ceci avait une grande signification. Un agneau était sacrifié chaque matin et chaque soir dans le temple pour montrer qu'il faut payer le prix pour le péché, que Dieu allait pardonner et qu'il va payer le prix pour le péché d'une manière encore inconnue. Et l'agneau de Dieu, ce symbole, nous rappelle le temps de Moïse. Mais quand Christ a été annoncé comme étant l'agneau de Dieu, le Messie, celui qui allait venir de Dieu, Dieu incarné. L'Ancien Testament nous a dit qu'il est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu. Et ils l'ont regardé. Ils ont vu un homme avec un accent régional de Galilée, un homme qui était vêtu de manière simple comme un homme ordinaire, qui n'avait rien de particulier, et il se demandait comment est-ce qu'il peut être le Messie, parce que à ce moment-là, le clergé de l'époque leur enseignait que le Messie allait être né dans une famille noble, une famille royale. Le Messie allait être une personne d'une personnalité extraordinaire, d'une grande puissance, qui allait rassembler toute la nation et les débarrasser de l'occupation des Romains, quelqu'un qui va pouvoir accomplir tout ceci par sa force, pour que la nation soit à nouveau prospère et riche. Et il pensait que quand le Messie allait venir, la nation juive allait devenir la nation suprême, la plus grande nation du monde. Et Jean leur montre un homme galiléen, un homme ordinaire. Voici l'agneau de Dieu. Et ils n'ont pas encore l'avantage de pouvoir voir ses miracles, de pouvoir entendre son enseignement. Ils ne l'ont pas encore rencontré. Ils n'ont pas rencontré sa personne, sa bonté, son amour, sa divinité qui était là en lui, qui se voyait. Et ils l'ont suivi. Et il leur pose cette question importante. Que cherchez-vous ? C'est une question pour nous, chers amis. Que cherchez-vous ? Si vous venez dans l'église, que cherchez-vous ? Si vous ouvrez une Bible, que cherchez-vous ? Si vous commencez à être en souci par rapport à la foi et être intéressé par la foi en Dieu, en Christ, que cherchez-vous ? C'est une question essentielle. Et ceci vous fait réfléchir. On m'a dit toutes sortes de choses. J'ai parlé il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui voulait être acteur et qui m'a dit qu'il a prié. Et je lui ai dit, « Pourquoi est-ce que vous priez ? Pour quelle sorte de choses ?» Et il m'a dit, « Oh, j'ai prié pour être célèbre. » C'est là ce pourquoi il priait. Mais vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu pour ceci uniquement. Il n'est pas là pour ceci comme votre premier besoin, votre premier désir. Ou peut-être que je suis malade et j'aimerais être guéri, alors je prie. Ou est-ce que je prie pour réussir mes examens ? Ce n'est pas la prière que Dieu va entendre et à laquelle il va répondre. Quelqu'un m'a dit un jour, « J'ai gâché ma vie, mon mariage, ma famille à cause de ma colère. Je dois prier pour que Dieu m'aide avec ma colère. » C'est un peu mieux, mais Dieu veut vous aider bien plus que ceci. Il veut vous transformer dans chaque aspect de votre vie. Il veut votre vie, il veut vous transformer, vous bénir, vous pardonner. Vous n'allez pas aller aux urgences avec un petit doigt qui vous fait mal. Parce que si vous arriviez là, aux urgences, ils ne peuvent pas vous aider. Dieu n'est pas simplement là pour m'aider un peu, pour me donner la richesse, pour me donner la célébrité, la prospérité. Non, il est là pour mon âme. Que cherchez-vous ? Si vous venez pour rechercher le pardon des péchés, pour rechercher une vie nouvelle, si vous venez rechercher la transformation de la part de Dieu qu'il peut faire dans votre cœur, dans votre vie, et pour rechercher la vie éternelle, alors vous pouvez vous approcher de Dieu. Que recherchez-vous ? C'est une question extraordinaire dans ce récit. Comment les disciples sont venus à Christ ? Au verset 38, Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Rabbi, c'est-à-dire maître. » C'est intéressant. Il l'appelait maître. C'est plein de respect. Mais ce n'est pas suffisant. C'est la seule fois qu'il l'appelle maître. André et Jean, quand vous lisez dans le reste de l'évangile de Jean, dans les autres évangiles, après ceci, il l'appelle Seigneur. Et c'est un terme fort pour Seigneur en grec. Souverain, celui qui est souverain dans ma vie. Ils se sont donnés à lui. Ils lui appartiennent et il est à eux. Mais ils n'en sont pas encore arrivés là. Et avec respect, ils lui disent « Rabbi, maître, où demeures-tu » Chers amis, André et Jean n'étaient pas intéressés de savoir où il habitait, où il résidait. Peut-être qu'il habitait dans l'équivalent d'une tente comme des milliers d'autres personnes dans cette région à ce moment-là. Peut-être qu'il habitait dans une maison, dans une petite pièce, mais ils ne sont pas intéressés de savoir où il loge. Mais c'est comme une image. Est-ce qu'on peut te parler ? Est-ce qu'on peut venir dans ta maison et parler et te poser des questions et apprendre de toi et ta personnalité ? Ils se confient en Jean-Baptiste qui leur a montré Christ. C'est là ce qu'ils veulent, ce n'est pas simplement « où demeures-tu ?» Ceci signifie plus, c'est la réponse de Christ qui nous intéresse ici. Il leur dit « venez et voyez ». Et c'est là mon prochain point. Venez et voyez. Comme les deux disciples parlaient d'une manière illustrée. Où habites-tu? Où demeures-tu? De même, Christ répond de la même manière. Venez et voyez. Il ne veut pas dire ici, venez voir où j'habite. Non, venez voir ce pourquoi je suis venu. Quelle est ma personnalité? Venez et voyez. Et c'est là ce dont nous avons besoin. De voir Christ, sa personnalité. Ils allèrent et virent où ils logeaient, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la 10e heure. Nous pensons que l'apôtre Jean, en se rappelant de ces événements, se rappelle exactement de l'heure, et il utilise la manière romaine de mesurer le temps. Plus tard dans l'évangile, il change avec la méthode juive. Mais pour les Romains, la 10e heure, c'est 10 heures du matin. Pour les Juifs, ce serait 4 heures l'après-midi. Ce qui n'aurait pas trop de sens dans ce passage, pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'expliquer, mais ceci c'est à 10 heures le matin, sans aucun doute. Il était environ la 10e heure. Ils n'ont pas quitté le Seigneur avant la nuit, ils étaient là toute la journée avec lui. Christ leur a expliqué ce pourquoi il est venu. Et c'est là ce que nous avons besoin de savoir. Nous devons venir et voir. Quand vous venez à l'église, quand vous réfléchissez par rapport aux choses de Dieu, vous devez venir tout d'abord pour les bonnes raisons. Vous devez avoir un besoin, le besoin du pardon, de la vie éternelle, de la réconciliation avec Dieu. Et ensuite, il y a des choses que vous devez savoir. Venez et voyez. Est-ce que vous avez entendu parler de choses spirituelles? Oh, ceci est si important. Vous devez savoir ces choses. De nos jours, dans la société, on nous donne une perspective du monde qui est inutile et sans espoir. Nous sommes endoctrinés. C'est un lavage de cerveau dans cette société athée qui nous dit que tout est venu uniquement par hasard. Un jour, dans des milliers d'années, alors que le monde continue, on expliquera toute chose en termes uniquement naturels. Et l'ensemble de la nature a été produit uniquement par hasard. Votre présence ici dans le monde, votre vie, votre conscience, vos sentiments, vos capacités, tout ceci est entièrement la conséquence du hasard. Et il n'y a pas de but à votre vie. C'est là ce qu'on nous dit. Il n'y a pas de sens à la vie. Il n'y a rien de plus important que les choses matérielles, de plus élevé que les choses matérielles. Et il n'y a pas de critères moraux absolus, il n'y a pas de Dieu qui nous a donné des critères moraux. Ainsi, nous pouvons par nous-mêmes décider ce qui est bon et ce qui est mal, et nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Et un jour, nous n'existerons plus. Nous allons être décomposés, et c'est là la fin de toute chose. Il n'y a pas de but à la vie, pas de signification en vous, rien de plus. Et un jour, le cosmos en son entier, tout l'univers, va se désintégrer. C'est la conséquence inévitable des forces de la nature. Et on nous fait croire cette perspective qui est complètement insensée, sans espoir et superficielle et si triste. Mes chers amis, il y a une perspective bien plus belle, bien meilleure, c'est celle de la parole de Dieu, qui commence avec Dieu, avec son caractère. Le Dieu Tout-Puissant qui décrit ses attributs tout-puissants, éternels, sa sainteté, sa bonté, sa sainteté est si importante. Il parle de la création, toute chose et toute la complexité de la création a été créée par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Dieu Omniscient. Et la Bible parle de l'homme, de l'humanité, de la chute de l'homme, la chute de l'homme. C'est là toute l'explication de l'homme. Il a chuté loin de Dieu. Il n'a plus la faveur de Dieu. La race humaine s'est rebellée contre Dieu. Et à présent, la race humaine est loin de Dieu, séparée de lui, et n'a pas l'aide de Dieu, n'a pas cette communion avec Dieu. Et l'homme a peu de sens de qui est Dieu, la chute de l'homme. C'est là la seule explication pour la race humaine. Pourquoi vous avez une conscience ? Et cependant, vous ne pouvez pas garder les critères moraux de la conscience. Il n'y a pas d'explication, à l'exception de la chute de l'homme. Et à présent, nous sommes sous la condamnation. Mais Dieu a décidé de pardonner, de sauver des millions et des millions de personnes dans le monde. Ainsi, il y a la doctrine de l'incarnation. Dieu est venu lui-même, Christ, la deuxième personne de la Trinité, est entré dans une personnalité humaine, il est venu dans ce monde, et il est devenu notre représentant, notre bouc émissaire, celui qui a porté nos péchés, afin qu'il puisse aller à la croix du calvaire. Et alors qu'il a été exécuté là, dans une souffrance indescriptible, Dieu a mis, a déversé sur lui toute la culpabilité de tous ceux qui seront pardonnés, dans toute l'histoire du monde. Et lui a souffert leur condamnation à leur place, leur condamnation éternelle. Et tout ceci comprimé en l'espace de quelques heures de souffrance terrible. L'expiation de Christ, le Sauveur, sa mort expiatoire, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, son cœur de Père. Vous devez savoir ces choses parce qu'il n'y a aucun autre moyen d'être réconcilié avec Dieu. Pas d'autre moyen pour que vos péchés soient pardonnés. Moi-même, je ne peux pas contrebalancer pour mes péchés avec de bonnes choses. Je ne peux pas être suffisamment saint pour plaire à Dieu. Je suis un être humain qui a chuté loin de lui et je dois avoir un représentant, Christ, qui souffre pour moi, Christ qui paye le prix pour mériter le ciel à ma place. Il est le seul sauveur, le seul chemin. Et ainsi, sa mort à la croix du calvaire, sa résurrection des morts, son ascension au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Le Sauveur du monde, celui à qui nous allons pour son pardon, pour la vie nouvelle. Et je dois me dépêcher, parce qu'il y a peu de temps qui reste. Mais en considérant ce texte, au verset 40, l'un des deux qui avait entendu ce que Jean disait était André, frère de Simon-Pierre. André trouva le premier Simon, son frère, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire Christ. » Et il l'amena à Jésus. Mais il ne l'a pas présenté. Et sans présentation, Pierre est entré et Jésus l'a regardé. En grec, c'est un terme fort. Jésus l'a regardé intensément et a fixé ses regards sur lui. Jésus l'ayant regardé, fixé du regard, il lui dit, il l'identifie. Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. Et c'est là un autre point. Un nouveau nom pour Pierre, pour Simon, un nouveau nom. Céphas, c'est en araméen, c'est l'araméen pour Pierre. Ce qui est à l'esprit dans l'araméen, c'est le rocher plutôt. Simon, tu seras appelé un rocher. L'équivalent, c'est Pétros en grec. D'où on découle Pierre. Mais ce n'était pas simplement un nom nouveau, mais c'était un nouveau caractère, c'est là ce qu'il a reçu. Comme le texte l'implique, une nouvelle nature. Christ allait lui donner une nouvelle nature. Christ, qui savait exactement qui il était, et toute l'histoire de sa vie, il connaissait Pierre avant de le rencontrer. Il savait qu'il était un homme impétueux, qu'il était volontaire, qu'il était toujours le premier à aller de l'avant. Il savait qu'il était un homme qui n'allait pas au bout de ses initiatives. Il était volontaire, mais il n'arrivait jamais au fond des choses. Un homme de force, mais également un homme de faiblesse. Son attitude était bonne, mais vous ne pouviez pas lui faire confiance parce qu'il était faible, mais son caractère allait être transformé. Ainsi, il est devenu le premier apôtre à prêcher le jour de la Pentecôte. Dans Actes 2, la première prédication de l'Église est fidèle dans sa vie, avec simplement un ou deux moments où il a trébuché. Et il a vécu pour Christ, et il est mort martyr pour Christ. Il est devenu un rocher, oui. Quand vous venez à Christ, des choses extraordinaires se passent. Vous devez savoir pourquoi vous venez. Seigneur, je viens pour ton pardon, pour la vie nouvelle. Je viens pour la vie éternelle. Vous devez savoir également quel est le message. L'homme qui a chuté loin de Dieu, que Christ est le seul sauveur, et ce qu'il a fait pour nous sauver. Et ensuite, quand vous venez à Christ, il vous transforme, il vous donne un nom nouveau. Est-ce que vous êtes orgueilleux, fier? Nous sommes tous fiers dans notre nature même. Il va vous rendre humble. Il va vous transformer. Est-ce que vous êtes méchant? Il fera de vous quelqu'un qui se donne, qui est généreux, qui aide les autres. Est-ce que vous êtes avare? Il fera de vous quelqu'un qui est généreux, qui en soucie pour les autres. Est-ce que vous êtes violent? Il vous rendra plein de douceur et de sensibilité. Est-ce que vous êtes rusé, malhonnête? Il vous donnera l'intégrité et la fidélité. Est-ce que vous êtes insensé? Il va vous donner la sagesse. Et vous serez une personne profonde. Les merveilles de la conversion. Vous êtes une personne hostile. Il vous rend bon, plein de bonté, de gentillesse. Si vous êtes impur, il vous rendra pur. Il vous transforme. C'est un nom nouveau, une nouvelle nature. Ceci ne se passe pas en un moment. Oh, dans un certain sens, oui, nous sommes transformés. Nous péchons encore. Nous avons encore nos faiblesses, mais il nous améliore constamment. C'est l'œuvre de Dieu de jour en jour et il nous aide. Alors que nous aspirons à vivre pour lui, un nom nouveau. Oh, chers amis, si seulement j'avais plus de temps, c'est un récit extraordinaire. Et rapidement, je peux lire au verset 43, « Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée et il trouva Philippe. Et il lui dit, « Suis-moi. » Or, Philippe était de Bethsaïda. C'est tout ce que nous apprenons par rapport à sa rencontre avec Philippe. Suis-moi. Mais il y a quelque chose d'important ici également pour nous. Quand vous suivez Christ, vous suivez comme les gens à ce moment-là, à l'époque, suivaient leur maître en Grèce, les étudiants d'un philosophe habitaient au même endroit que le philosophe et le suivaient partout. Et ils acceptaient son enseignement en détail, précisément. Et de même pour les Juifs, si vous étiez assis au pied d'un grand enseignant comme Gamaliel, vous n'étiez pas simplement un étudiant de temps en temps, mais vous étiez avec lui constamment. C'est ainsi qu'ils suivaient leur maître à ce moment-là, à l'époque. « Suis-moi », ceci signifie une relation proche. Donne-moi ta vie et reste avec moi sur tout le chemin et pour l'éternité. C'est là la conversion. Vous venez à Christ et vous lui donnez votre vie. Et ensuite Philippe, au verset 45, trouve Nathanaël et lui dit « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé, c'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » Il y avait là un problème pour Nathanaël. Nulle part dans l'Ancien Testament, il est dit que le Messie viendra de Nazareth. Il ne savait pas à ce moment-là que Christ était né à Bethléem. C'est là ce que les prophètes disaient, que l'Écriture disait. Ainsi, il pose sa question, et Philippe ne connaissait pas la réponse à sa question. Ainsi, tout ce qu'il pouvait lui dire, c'était « Viens et vois, viens et vois ». C'est là ce que nous vous disons, chers amis. Si vous n'êtes jamais venu à Christ, viens et vois. Si vous réalisez votre besoin du pardon, de la vie nouvelle, de la vie éternelle, si vous comprenez ce que Christ a fait, en souffrant, en mourant à la croix du calvaire, si vous vous confiez en lui, que vous lui donnez votre vie, oh, alors vous saurez. Vous saurez ce que c'est que de marcher avec Christ et vous allez le prier et il sera votre sauveur. Et vous ne le laisserez jamais, vous ne l'abandonnerez jamais. Viens et vois, dit Philippe. Et Nathanaël, et je conclus avec ceci, à cette expérience. Jésus fit venir à lui Nathanaël au verset 47 et il dit de lui, voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de faute. Voici un homme qui est profondément sincère. Quelqu'un qui cherche Dieu. Ceci était rare. Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Saviez-vous que parmi les Juifs de ce temps-là, c'était une tradition pour les hommes, quand ils lisaient la Torah, la loi de Dieu, de s'asseoir sous un figuier, quand ils le pouvaient. Et Nathanaël, il étudiait la Bible, littéralement, de la bonne manière, sous un figuier, dans sa maisonnée. Il dit à Christ, « Comment sais-tu que j'ai fait ceci ?» Et il comprend sa divinité, qu'il est Dieu. Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Ensuite, il nomme une de ces choses, verset 51. Il lui dit aussi, « en vérité, je vous le dis. Je vous déclare d'une manière solennelle, je vous le dis. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » C'était là un rêve de Jacob, bien des siècles auparavant, quand il a eu ce rêve, et qu'il a vu de cette manière-là qu'il y avait la réconciliation avec Dieu, qu'il y avait une échelle de la terre vers le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient. C'était une image dans son rêve, du fait que l'homme peut être réconcilié avec Dieu, et cette échelle, c'est Christ. Il a souffert, il est mort, il a fait le pont et il a porté les péchés pour tous ceux qui viennent à lui dans toute l'histoire du monde. Christ a dit à Nathanaël, « Tu le verras, tu seras un témoin de la croix du calvaire, et de même pour André, de même pour Jean et Pierre, et les autres disciples également qui seront appelés plus tard. Ils ont tous été témoins de la croix du calvaire, Christ qui meurt à la croix du calvaire. C'est là le cœur, le centre même de l'évangile. Vous vous confiez dans l'amour incomparable de Christ, qui est venu de la gloire du ciel sur cette terre pour des vers tels que nous. Et il sait tout par rapport à nous. Il a payé un tel prix pour nous racheter. Il n'y a rien qui peut être comparé à l'amour de Dieu. Et vous devez, chers amis, venir à lui. Nous avons vu ceci dans l'appel des premiers disciples. Quand vous venez à Dieu, venez pour les bonnes raisons, pour son pardon, pour la vie nouvelle, pour la vie éternelle. Et vous devez savoir comment Dieu a payé le prix pour le salut, pour une race humaine qui a chuté loin de Dieu. La croix du calvaire. Vous devez venir à lui comme Philippe en le suivant et vous lui donner votre vie. Et alors vous le connaîtrez. Et vous allez marcher avec lui et vous serez sur le chemin vers le ciel. Prions ensemble. Ô Dieu, notre Père céleste, fais-nous grâce à chacun, nous te prions ce soir. Aide-nous, Seigneur, nous te prions. Soumets notre cœur rebelle, amène-nous à toi dans ta grande miséricorde, dans ton amour, et qu'il y ait ceux parmi nous qui sont présents et qui te recherchent ce soir, et qui te trouve réellement, qui marche avec toi et qui t'aime à partir de maintenant et pour l'éternité. Seigneur, aide-nous chacun, nous te le demandons, dans le nom de notre Sauveur, Jésus-Christ, pour sa gloire. Amen.